voix marseillaise. Le 9 janvier 1942, à 12h40, au large des Baléares, une catastrophe maritime a eu lieu, pire que celle du Titanic, proportionnellement parlant. Le paquebot La Mauricière de la Compagnie Générale Transatlantique coule. Bilan, 300 morts et 95 rescapés. J'ai rencontré Isabelle Cardin, présidente de l'association Naufrage du La Mauricière, et Sébastien Giraud. Tous deux sont les petits-enfants de personnes qui ont vécu ce drame. Le grand-père d'Isabelle, Pierre Cardin, a trouvé la mort lors de ce naufrage. Tandis que celui de Sébastien, Xavier Montagioni, a été sauvé. Durant l'émission, vous entendrez des extraits du témoignage assez unique et émouvant que ce dernier a livré en 2007, quelque temps avant son décès. Il était novice sur le La Mauricière.
Alger, on se rend sur Marseille. Le temps n'était pas magnifique, c'était plus le temps que j'avais eu à l'aller. On était sur le retour, bon, on se rend à Marseille. On arrivait le soir, je me couche, mais je regagne ma cabine. On n'arrivait pas à dormir avec les chaînes, avec les cubiers qui traversaient notre cabine. On se retrouvait avec un tintamarre, les chaînes qui claquaient. Je prends mon oreiller et une couverture, je m'en vais me coucher. Dans les cuisines, à même le sol, mais dans les cuisines où c'était l'endroit le plus chauffé d'ailleurs. 11h du soir, toutes les casseroles, tout qui s'en va, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qu'il n'arrive pas. On avait certainement changé de bord parce qu'on tanguait, on se met à rouler. Il passe le matelot de ronde, je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « eh ben petit, on va au secours d'un bateau qui est en train de couler. » « Ah bon ?» Alors je me suis réveillé, je suis remonté puisque j'étais novice de passerelle, je suis remonté à la passerelle. On me dit « Ah, tu es là, bon, eh bien, tu vas porter les messages nécessaires. » Le commandant qui s'adresse à moi, il me dit « Tu vas aux radios ?» Je servais d'estafette à la passerelle. On s'est retrouvé au lever du jour, rien ne s'était calmé, on avait dépassé les îles Baléares. On se retrouvait avec un temps épouvantable, des creux de 9-10 mètres. On n'avait rien trouvé du jumiège. On n'a rien trouvé, même pas un morceau de bois qui flottait sur l'eau. Le commandant avait décidé de reprendre la route sur Marseille. Et c'est là qu'on a eu les avaries, portes de soute défoncées, l'eau qui rentrait dans le bateau, la gîte. On était couchés sur tribord. On a essayé de faire un va-et-vient pour vider l'eau des cales parce qu'on n'avait plus les pompes qui pouvaient marcher. Et on s'est retrouvés en perdition.
Isabelle Cardin et Sébastien Giraud, bonjour.
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 On va parler aujourd'hui du naufrage du La Mauricière, le 9 janvier 1942. Alors je vais d'abord donner quelques chiffres pour nos auditeurs, des chiffres et données sur ce paquebot et sur cet événement. Donc ce paquebot a été mis en service en 1921, il assurait la ligne Marseille vers l'Afrique du Nord, il mesurait 112 mètres de long. Le jour du naufrage, il y avait 395 passagers dont 132 membres d'équipage, majoritairement des hommes. Il y avait 88 militaires, dont 24 rescapés, 43 femmes, 7 rescapés, 28 jeunes de 0 à 17 ans, 4 rescapés. En tout, après le naufrage, il va rester 95 rescapés. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous êtes rattaché à cette histoire tragique, Sébastien Giraud?
En ce qui me concerne, je suis le petit-fils d'un des rescapés de ce naufrage. On aura l'occasion d'en parler, mais je pense que l'élément majeur à avoir en tête, c'est que si j'ai cette capacité aujourd'hui à vous parler, c'est tout simplement lié à ce naufrage, puisque en fait, la petite histoire dans la grande histoire veut que Mon grand-père rencontre ma grand-mère suite au naufrage pour lui témoigner à la famille en fait de ce qui s'était passé. Donc si aujourd'hui je suis présent, c'est parce que le naufrage est arrivé et qu'il n'y a pas eu que finalement des victimes dans ce naufrage. Il y a aussi des histoires qui se sont créées.
Et vous, Isabelle Cardin ?
Moi, je suis la petite fille d'un des militaires passagers.
Qui s'appelait ?
Qui s'appelait Pierre Cardin, et qui n'a aucun rapport avec le couturier. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser au naufrage. En fait, on ne m'en parlait pas du tout quand j'étais petite. Mon père avait 5 ans quand son propre père a disparu dans le naufrage. Donc lui, n'en avait aucun souvenir. Et ma grand-mère a commencé à m'en parler quand j'étais au début de l'adolescence, donc vers 13-14 ans. Et malheureusement, elle est décédée quand j'avais 15 ans. Ce qui fait qu'au final, il n'y avait plus personne pour pouvoir m'en parler. Donc je me suis lancée dans des recherches pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que ça restait très flou. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée porte-parole de toutes les familles. Mais c'est pareil, je pense qu'on va pouvoir développer ça dans un second temps.
Alors Pierre Cardin, il avait 28 ans quand il est décédé. Alors est-ce qu'on peut raconter un peu son parcours de vie ?
Déjà, il est le fils de Victor Cardin, qui lui est né à Saint-Malo. Il passe de la Bretagne au port de Toulon, vu que c'est le plus grand port militaire de France. Pierre est le fils aîné de Victor, et lui aussi va tenter une carrière dans l'armée. Mais par contre, il s'engage dans l'armée de terre. Il épouse ma grand-mère et ils vont avoir 3 enfants très rapidement. Hein. Le premier né en 35, le deuxième en 37 et la troisième en 39. Et donc en 42, ben, le naufrage arrive et voilà. Et ma grand-mère se retrouve veuve avec 3 jeunes enfants.
Ils vivaient où ?
À Toulon.
Et vous, Sébastien Giraud, votre grand-père, donc Xavier Montagioni, il était, si je ne me trompe pas, novice sur ce paquebot de la Mauricière.
Oui, tout à fait. Il était novice de passerelle, les novices entre 16 et 18 ans. Hein. Il venait de rentrer à la compagnie transatlantique quelques mois auparavant, puisqu'il avait, il était rentré, je crois, en mai 1941. Il était attaché donc à différentes missions sur la passerelle et accompagnait souvent le commandant sur ses différentes décisions. Toujours, encore une fois, les petites anecdotes qui alimentent en fait cette histoire-là. Le papa de mon grand-père ne souhaitait pas qu'il devienne marin. Donc sa carrière a commencé par une falsification de signature qui lui a permis après, en usant, on va dire, de réseaux et de connaissances pour pouvoir faire valider sa signature, il a pu donc embarquer en mai 1941 comme novice, alors même que personne dans sa famille ne souhaitait qu'il le soit.
Il habitait à Marseille ?
Il habitait à Marseille, dans le quartier du Panier. Né en Corse, c'est un élément important. Montagioni, en fait, ils étaient venus s'installer ici, même si ses parents ne vivaient plus ensemble. Il était installé dans le quartier du Panier. Il y a une petite histoire, on pourra revenir aussi, qui s'est déroulée en 1943 par la suite, qui est assez intéressante et qui vient alimenter en fait aussi cette histoire aussi du La Mauricière.
Quel a été l'impact du naufrage sur votre famille ?
Moi, ma grand-mère a attendu que je sois en âge de comprendre pour m'en parler. Je me souviens lui avoir demandé ce qui s'était réellement passé, pourquoi le bateau avait coulé. Et en fait, elle n'avait pas vraiment les réponses. C'est-à-dire qu'il restait un flou sur le pourquoi de ce bateau avait coulé. Je pense que, vu qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, la communication n'était pas optimale. Et que, en plus, comme ils étaient à Toulon et pas à Marseille, ben mine de rien, l'information, elle voyageait pas très bien. En revanche, quand j'étais petite, vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était elle m'avait raconté que elle avait mis énormément de temps à accepter le décès de mon grand-père, et que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui tapait à sa porte, elle se disait, c'est lui qui revient. Elle vivait dans cette espèce d'illusion que peut-être il avait réchappé du naufrage, mais que peut-être qu'il avait perdu la mémoire, peut-être que justement parce que c'était la guerre, il n'avait pas pu rejoindre Toulon dans les temps, parce qu'on sait que tout était compliqué de toute façon en cette période. Et donc voilà, elle a longtemps espéré son retour. Elle a fini par se remarier tardivement, hein, dans les années 50. Et les enfants qu'elle a eus avec son second mari, elle les a eus hors mariage. Ils se sont mariés après. Moi, je vois dans ça le fait que, même si elle essayait de reprendre une vie normale avec un nouveau mari et tout ça, le fait de perdre ce nom de Cardin et de devoir se détacher de son premier mari, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas facile pour elle. En revanche, quand j'étais petite, effectivement, je savais que l'homme que j'appelais papy n'était pas mon vrai grand-père, mais c'est pareil. La première fois que j'ai vu une photo de mon grand-père, de mon vrai grand-père, c'était une photo de lui à cheval, habillé en militaire. Comme il était sur le cheval, forcément, la tête était grosse, elle faisait 1 cm, donc en fait, je voyais même pas bien ses traits. Et c'est la seule photo qu'on m'ait jamais montrée de mon grand-père quand j'étais petite. Et ce n'est que à partir du moment où, en tant qu'adulte, j'ai commencé à faire des recherches sur le Lamoricière et que mon père a sorti d'un tiroir des photos la photo de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère, des photos donc de mon grand-père avec son premier enfant dans les bras, enfin des choses que je n'avais jamais vues tant que ma grand-mère était en vie. J'ai tout découvert extrêmement tardivement, en fait. Chez moi, il n'y a pas eu du tout de transmission, hormis ce moment quand j'avais 13-14 ans, où ma grand-mère m'en a un petit peu parlé. Mais c'était un blackout total, ce qui explique aussi mon besoin, moi, de savoir ce qui s'était passé et de mener l'enquête.
Mais votre père, lui, il s'est tu, comment il a encaissé cette histoire ?
Mon père, en fait, il dit « je n'ai aucun souvenir de mon père ». En fait, la seule chose dont il se souvient, c'est que quand son père se mettait en colère, il paraît qu'il avait les yeux qui changeaient de couleur. Que c'était quelqu'un qui avait les yeux bleus et que quand il se mettait en colère, les yeux viraient au gris de façon orageuse. Voilà, c'est le seul souvenir qu'il a de son père. Il se souvient de bombardements à Toulon où ils se sont mis à l'abri. Après, en fait, comme Toulon est un port militaire, en fait, la famille a été déplacée et mise à l'abri parce qu'on craignait que Toulon soit entièrement détruite sous les bombardements. Il se souvient de choses comme ça, de la guerre, mais du naufrage, de la disparition de son père ou de son père, il ne se souvient de rien.
Et votre grand-mère n'a pas évoqué régulièrement votre grand-père auprès de ses enfants comme une sorte de perpétuation de sa mémoire? Est-ce qu'elle a mis ça de côté, elle a refait sa vie?
Alors en fait, je pense que ma grand-mère, à partir du moment où elle a rencontré son second mari, effectivement, il y a dû y avoir une mise sous le tapis du premier aussi par respect pour le second. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que celui qui a hérité de la transmission familiale, c'est le frère de mon grand-père. Mon grand-père avait un frère plus jeune de 2 ans, qui lui aussi est devenu militaire. Lui portait la mémoire de son frère. Il était dans la marine. Lui disait qu'à chaque fois qu'il passait en avion au niveau de l'endroit où le bateau avait fait naufrage, il jetait systématiquement une fleur à cet endroit-là, quoi. Et donc c'est lui qui a hérité de cette mémoire, qui l'a transmise à son fils, donc qui est un cousin de mon père. Et aujourd'hui, c'est plus cette branche de la famille qui a conservé cette mémoire-là que ma branche à moi.
Et vous, alors Sébastien Giraud, vous avez bien connu votre grand-père, j'imagine. Est-ce qu'il évoquait ça souvent en réunion de famille? Est-ce qu'il avait la parole facile sur ce sujet?
Alors en fait, il nous en a jamais parlé. Il a fallu attendre justement cette interview de 2007 pour qu'on puisse découvrir qu'il l'a vécu, comment il a vécu, et ce qu'il en a retenu. Et ça a été pour nous un choc, un véritable choc, puisque pour nous, notre grand-père était un rock. Dans le témoignage qui est fait, un de ses collègues parle d'un personnage. C'était un vrai personnage. Xavier était vraiment le pilier de la famille. Même si mes grands-parents s'étaient séparés, ils vivaient en Corse, mais on était tous les étés, nous étions en Corse. On passait un mois en famille à ses côtés. Et tout ce temps-là, il ne nous a jamais parlé de ça. On sentait qu'il y avait une fêlure, une sorte de fissure dans son histoire. Il n'a pas fait toute sa carrière dans la marine. Il a quand même navigué pendant une trentaine d'années. Dans son témoignage, justement, en 2007, il décrit que l'arrêt de sa carrière, qui va intervenir finalement avant sa retraite, était potentiellement lié en fait au naufrage. Il avait du mal, il n'arrivait plus. Il était inquiet lorsqu'il y avait des tempêtes. Et ça lui ramenait, pas forcément vis-à-vis de lui ou une peur personnelle, mais je pense que des images lui revenait à l'esprit par rapport à ce qui s'est passé pendant le naufrage et ce qu'il a pu voir qui était terrible, terrible de par les conditions, terrible de par le moment. On était au milieu de la Seconde Guerre mondiale, et terrible parce qu'il a vu des gens périr, et particulièrement des enfants qui n'ont pas survécu à ce naufrage-là.
Moi, je voudrais juste revenir sur l'impact qu'a eu le naufrage sur mon père, parce que donc mon père n'en a aucun souvenir, mais il a quand même inconsciemment, très inconsciemment, hein, parce que quand je lui ai posé la question, il m'a dit que ça n'avait strictement rien à voir. Quand il a eu 17 ans, il rentrait dans la marine. Et quand on lui a dit où, sur quel type de bâtiment veux-tu naviguer, il a choisi les sous-marins. Et moi, je trouve que aller explorer les fonds marins quand on a un père qui repose au fond de l'eau, c'est quand même très fort symboliquement. Mais quand je lui dis, il me dit « tu racontes n'importe quoi, ça n'a rien à voir ».
Alors Isabelle Carnin, vous décidez de vous impliquer davantage par rapport à cette histoire. En décembre 2022, vous créez l'association Naufrage du Lamoricière. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de creuser quoi davantage ce sujet et en 2022 ?
En fait, l'histoire, elle commence un petit peu avant. Donc entre le moment où ma grand-mère m'en parle et où je suis adolescente et le moment où je m'intéresse au naufrage, il se passe quand même pas mal d'années. bien évidemment, je suis dans la vie active, je travaille, enfin voilà. Et puis, il va se passer plusieurs choses, alors, dont je ne vais pas être au courant sur le moment, mais la première, c'est la découverte de l'épave en 2008. Visiblement, ça a eu un gros impact à Marseille, sauf que moi, à l'époque, j'habite à Paris. Et je peux vous assurer qu'à Paris, l'info, elle n'est pas remontée jusque-là. Je n'en ai pas entendu parler. Ce qui va se passer, par contre, c'est que deux ans plus tard, en 2010, il y a une maison d'édition qui va rééditer le livre qu'avait écrit une des rescapées, qui s'appelle Maggie Dumont. En fait, elle avait écrit ce livre sous le titre « Naufragé » et il était paru en 1943, donc vraiment dans la suite du naufrage. Et cette maison d'édition donc, réédite ce livre en 2010 avec en complément une partie sur la découverte de l'épave. Et là, par contre, je ne sais plus comment, mais je tombe sur ce livre et je me dis « Incroyable, il existe un livre sur le naufrage ». Donc je me jette dessus. À partir de là, je commence à me dire « Ah ben oui, ben alors peut-être que je vais avoir des réponses, sauf que les réponses que je cherchais, je ne les trouve pas dans le livre. » Et je me mets à chercher et à fouiller un petit peu. Alors je commence par la presse ancienne, parce qu'il faut dire que la BNF a quand même un fonds de presse ancienne très, très intéressant et qui est disponible en ligne. Et en fait, je lis tous les journaux d'époque où je découvre à quel point le naufrage a eu un impact vraiment très très fort en 1942, mais très rapidement balayé par les événements historiques. Je découvre qu'il existe des archives militaires et que comme mon grand-père était militaire, ben, j'ai accès à son dossier d'officier, voilà. Donc je fouille là-dedans, je trouve des choses, je découvre qu'il est déclaré mort pour la France, ce que je ne savais pas et qu'on ne m'avait jamais dit. Je décide à un moment, vers 2016 ou 2017, de créer une page Facebook consacrée au naufrage. Et là, je commence à avoir progressivement des familles qui viennent vers moi en me disant « mais c'est génial de créer ça, les documents que vous partagez sont super intéressants, on ne savait pas ». Donc voilà, il commence à y avoir une petite interaction avec certaines familles. On se rapproche progressivement de 2022, qui donc marque le 80e anniversaire du naufrage. Et à ce moment-là, je me dis, 80 ans, c'est un bel anniversaire. Ce serait dommage qu'il ne se passe strictement rien pour cet anniversaire. Et donc, avec les familles qui avaient pris contact avec moi, je propose qu'on marque le coup. Sauf que la question se pose de où va-t-on marquer le coup, étant donné qu'il n'existe pas de monument commémoratif du naufrage. Et donc, en fait, c'est pareil, au fil de mes recherches, j'avais découvert qu'au cimetière Saint-Pierre de Marseille, il y a une tombe familiale qui existe, qui est la tombe d'une des deux infirmières qui était à bord du paquebot et qui accompagnait le groupe des 16 enfants de ce qu'on appelait les centres Guinemer. Et que sur cette tombe-là, en fait, il y a une plaque rendant hommage non seulement aux deux infirmières qui accompagnaient les enfants, mais aussi au groupe des 14 enfants qui sont décédés dans le naufrage. En plus, elle est très bien située dans le cimetière Saint-Pierre. Elle est tout en haut de l'allée principale, à un endroit où il y a une place, donc où on peut se réunir assez facilement. C'est pas comme si on était entre deux allées et coincé entre trois tombes. Donc voilà, on décide de faire cette réunion. Et donc il y a du monde qui est venu. Pas uniquement des gens avec qui j'avais eu contact, mais des personnes qui en ont entendu parler dans la presse, parce qu'il y avait eu des articles qui étaient parus à ce moment-là. Et on a vécu un moment d'une intensité émotionnelle rarissime. Tout le monde était en pleurs. C'est à ce moment-là que l'idée de créer l'association est née, vraiment.
Et vous, Sébastien Giraud, à quel moment vous avez commencé à vous impliquer dans cette histoire, à vous poser des questions? Est-ce que c'est venu petit à petit
De notre côté, d'un point de vue familial, comme j'ai pu l'indiquer, ce naufrage en fait est constitutif de notre famille, constitutif de notre venue sur Terre. Et on a commencé à avoir un peu des informations autour de ce sujet-là au moment des 50 ans du naufrage, et il y avait eu une croisière qui avait été entreprise pour pouvoir aller justement poser une gerbe au lieu donc du naufrage au large des Baléares. Mon grand-père, qui était là encore de ce monde, avec ma maman, avait participé donc à cette commémoration. Et là, sa voix avait commencé à se libérer, on va dire, commencé à avoir quelques bribes de l'histoire. On a mis une année, hein, en fait, à venir à rejoindre l'association, et ce n'était que l'année dernière. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se rappeler de ce qui s'est passé, ce qui est constitutif de ce que nous sommes.
Oh,
Bidasso a donné l'ordre de mettre un canot dans la mer. Nous avons embarqué les femmes, les enfants, d'abord, comme on dit dans la marine. Nous avons embarqué les femmes et les enfants qui étaient, dont la femme du commandant de la marine nationale et ses deux enfants. Au moment de mettre l'embarcation à la mer, un paquet et une lame a soulevé l'embarcation. Un garant a lâché, s'est décroché. La police s'est décrochée et tous les passagers qui étaient à l'intérieur, autrement dit 17 gamins, dont les dames, je ne me rappelle plus, j'ai vu partir des femmes, des enfants à la mer, c'est tout. Et le commandant de la marine nationale qui était à la passerelle avec le commandant Miliasso, s'est jeté à la mer pour essayer de porter secours à sa femme et à ses enfants, puis je n'ai plus revu personne. Bien que voyant qu'on ne pouvait pas mettre les canots à la mer, le commandant Miliasso a donné l'ordre du sauve qui peut. Il m'a d'ailleurs dit, il s'est adressé à moi d'ailleurs, qui était avec lui à la passerelle, il m'a dit, petit, essaye de te jeter à la mer, n'hésite pas, jette-toi à la mer. Il m'a tapé à l'épaule et il m'a souhaité bonne chance.
Vous avez réussi à identifier les 300 personnes qui sont mortes dans ce naufrage, si j'ai bien compris.
La liste de l'équipage et d'embarquement était disponible, bourrée de fautes d'orthographe. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes étaient systématiquement identifiées sous leur nom d'épouse et pas leur nom de jeune fille. Or, pour savoir qui sont réellement les gens, on a besoin des noms de jeunes filles. Et autre caractéristique, les enfants, à l'exception des enfants du groupe Guinemer, tous les enfants qui voyageaient donc avec leurs parents n'étaient pas nommés. En fait, ça disait « Monsieur et Madame Untel », donc bien évidemment sans le nom de la femme, hein, « Monsieur et Madame Untel », avec leurs enfants âgés de 7, 3 et 2 ans. Il y a eu un très très gros travail pour réidentifier les personnes, corriger les erreurs sur les noms, trouver les prénoms des enfants, enfin voilà, ça a été un boulot monstrueux. Et puis on a eu deux surprises en fait, enfin je dis « on », mais c'est moi. la première, c'est que il y avait des agents polonais qui étaient à bord du bateau, ils étaient au nombre de 4, il y a eu 3 disparus, 1 rescapé parmi eux. Ces 4 personnes-là voyageaient sous de fausses identités. Ils travaillaient à déchiffrer le code Enigma qui servait aux Allemands pour communiquer. Ils ont embarqué à bord du La Mauricière une machine Enigma dont ils se servaient pour décoder les trucs. Donc on peut affirmer qu'il y a une machine Enigma qui dort au fond de la Méditerranée, probablement d'ailleurs dans l'épave du bateau. La première chose que j'ai voulu faire par rapport à eux, c'était essayer d'identifier sous quelles identités ils avaient voyagé. Donc c'est un mystère que j'ai fini par éclaircir en allant aux archives nationales. En fait, j'ai trouvé un dossier où il y avait des enquêtes qui avaient été menées et ils ne nous disaient pas que ces personnes-là étaient des espions polonais, mais par contre, ça disait « il est clair que ces noms-là sont des fausses identités parce que les dates de naissance et tout ça ne correspondent pas à des personnes réelles ». Donc ça a été la première partie. Et la seconde partie, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'au niveau de l'équipage, il y a 2 personnes qui étaient censées faire partie de l'équipage qui n'ont jamais embarqué et qui ont été remplacées par 3 autres. Donc c'était des chauffeurs, hein, c'était des Sénégalais majoritairement qui alimentaient la chauffe au charbon. Mais voilà, en fait, entre les listes qu'on avait et ce qui s'est réellement passé, il y a ces 4 Polonais et ces 3 chauffeurs qui n'y figuraient pas et que j'ai réussi à identifier.
Vous avez mis combien de temps pour pouvoir trouver les noms de toutes les personnes qui sont décédées dans ce naufrage ? En fait, c'est quelques mois, hein, non ?
Entre le moment où je m'y suis mis et le moment où je suis arrivée au bout, il s'est passé 4 ans. 4 ans de recherche.
Quels étaient les passagers qui se trouvaient sur le La Mauricière, qui a donc quitté le port d'Alger le 6 janvier 1942 ? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de leur profession, origine un petit peu, et après on rentrera dans les détails.
D'un côté, on a l'équipage. En fait, quand on dit qu'il y a 132 personnes qui font partie de l'équipage, il serait plus exact de dire que c'était 132 personnes qui travaillaient pour la Transat. Mais en fait, il n'y en avait que 122 qui faisaient partie de l'équipage du La Mauricière. Les 10 autres étaient des employés de la Transat qui normalement travaillaient sur d'autres bâtiments et qui, là, embarquaient sur le La Mauricière pour être rapatriés vers le port de Marseille. C'est une petite précision, mais je pense qu'elle est importante. Et puis, la spécificité des passagers embarqués, c'est que donc on a cette déjà grosse proportion de militaires à bord, vu qu'ils sont 88, c'est quand même un gros quota, qui s'explique tout simplement parce que, en fait, pendant la guerre, la Transat n'est plus... elle est passée sous tutelle de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide des rotations des bateaux et tout ça, ce qui est une façon pour eux de réquisitionner les bâtiments sans vraiment les réquisitionner. Et donc, quand ils ont besoin de transporter des troupes, ben, ils peuvent les faire monter à bord des bateaux plus facilement. Donc ça explique pourquoi on a autant de militaires. À côté de ça, donc, on a ce fameux groupe des enfants Guynemer. Donc je peux en dire deux mots rapidement. En fait, les centres Guynemer ont été créés par la sœur du héros de la Première Guerre mondiale, Georges Guynemer. Et en fait, c'est une sorte d'association qui a pour but premier de s'occuper des enfants à la base de la zone occupée et en particulier des villes les plus bombardées comme Le Havre ou Saint-Nazaire, et de les soustraire de cette menace des bombes et de les envoyer faire un séjour en Afrique du Nord pour qu'ils aient une enfance un peu plus sympa que sous les bombes. Souvent, les enfants partaient pour 3 ou 6 mois. Ils étaient dans des familles d'accueil en Algérie. Et donc, au bout de 3 ou 6 mois... ils rentraient en France. Après, ça leur faisait des sortes de vacances, mais qui n'étaient pas que des vacances. Hein. Ils étaient scolarisés en Algérie. Ensuite, on a bien évidemment des familles. On a 4 ou 5 familles qui voyagent avec leurs enfants. Sur ces familles, il y a une seule famille où la mère et les 2 enfants seront rescapés. Sinon, toutes les autres vont périr de façon globale. Certaines sont même des familles au sens large, c'est-à-dire avec la grand-mère. Il y a des familles entières qui sont anéanties par le naufrage. On a des couples, bien évidemment. Et puis, on a une grande majorité d'hommes qui sont surtout des hommes d'affaires, en fait, qui continuent à aller d'une rive à l'autre de la Méditerranée pour des raisons commerciales, parce que c'est souvent des industriels, des commerçants, des gens comme ça.
Et des fonctionnaires aussi.
Il y a quelques fonctionnaires, ouais, quelques employés des PTT. Il y a des étudiants aussi. On a plusieurs étudiants, il y en a qui partent faire leurs études, qui sont nés en Algérie et qui partent faire leurs études en France métropolitaine. C'est le cas, entre autres, de 3 étudiants des arts et métiers d'Aix-en-Provence, qui donc n'arriveront jamais à destination. Et puis, on a un dernier groupe qui est important, c'est qui voyage en 4e classe. C'est quasiment 40 Kabyles qui sont à bord du bateau et qui, eux, vont travailler dans les mines du Gard, en fait. Toutes les mines de charbon qu'il y avait dans le Gard à l'époque. Et donc, eux embarquent sur le paquebot pour aller travailler là-bas. Donc, on est vraiment sur un bateau avec tout type de gens, et qui viennent non seulement des 2 côtés de la Méditerranée, mais au-delà, hein, parce qu'on a des gens qui sont à même de retourner en zone occupée. C'est vraiment extrêmement varié.
Alors, je vous propose maintenant, Isabelle Cardin et Sébastien Giraud, de parler de cette traversée funeste. Hein. Donc, ça va commencer le 6 janvier, en fin d'après-midi, au port d'Alger.
Le départ d'Alger se fait sur une mer qui est à peu près correcte, même si elle commence un peu à se former. Il se trouve qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière, et pour eux c'est une traversée qui semble assez standard, assez banale finalement. La mer va forcir au cours de la traversée, après un jour de navigation. Et c'est au cours de la nuit en fait que les choses vont commencer à un peu s'empirer, où ils vont avoir une alerte. Une alerte comme quoi un bateau aurait fait naufrage. Et ce bateau-là, c'est le Jumièges. Et donc, bien entendu, très rapidement, ils vont faire demi-tour pour essayer de venir sauver ce bateau. En fait, ils vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucune trace. Aucune trace du Jumièges, rien qui ne dépasse, pas un rescapé, pas un canot à l'eau, un bateau qui part complètement sans aucune trace, quelle qu'elle soit.
Il faut juste, je vous coupe, dire qu'il y avait une difficulté supplémentaire, on était en période de guerre et les communications étaient plus ou moins coupées ou interdites entre les navires et donc ils sont partis sans connaître la météo sur place et durant ce trajet.
Les conditions historiques, tout simplement, hein, font que, effectivement, les communications sont réduites au minimum. Les bâtiments n'ont pas le droit d'échanger entre eux par radio, sauf à émettre un SOS. Et les communications des prévisions météorologiques leur sont fournies au moment du départ à Alger, mais par contre, ils n'auront pas de mise à jour au fil du temps. Donc, en fait, quand ils partent d'Alger, on leur dit que la mer est un peu agité, mais à aucun moment ils ne savent qu'une fois qu'ils auront passé les Baléares, c'est une tempête gigantesque qui les attend. Ils partent à 17h le 6, c'est un mardi soir, et donc ils font route d'Alger vers les Baléares, et quand ils arrivent à ce qu'on appelle la passe de Bajoli, qui est la passe entre Majorque et Minorque, entre les deux îles des Baléares, ils ont déjà 8 heures de retard sur le trajet prévu. C'est-à-dire que le trajet prévu, c'était on part le mardi 6 à 17h, on passe une première nuit en mer, une journée en mer, une seconde nuit en mer, et le jeudi matin, on arrive à Marseille. Ça, c'était ce qui aurait...
C'est-à-dire le 7 ou le 8, non, le 8.
Le 8. En fait, ils auraient dû arriver le 8 au matin. Le 6 vers minuit, en fait, ils ont déjà 8 heures de retard. Donc là, ils savent que la traversée va être compliquée. Mais ce qui va vraiment la compliquer, en fait, c'est... qui capte ce SOS du Jumièges.
Qui est un cargo avec une vingtaine de personnes à bord.
Tout à fait. Et donc, en fait, ils se déroutent. Ils ne font pas demi-tour. Ils se déroutent pour aller sur la position indiquée du Jumièges, qui n'est pas très loin de l'endroit où ils se trouvent. Mais en fait, cette décision, elle va avoir une conséquence directe. C'est que jusqu'à présent, le La Mauricière prenait les vagues de face. Donc, en fait, il tanguait. Sur les vagues, alors qu'à partir du moment où il se déroute pour aller sur le Jumièges, il va prendre les vagues sur le côté, donc il va se mettre à rouler. C'est la différence entre le tangage et le roulis. Le fait de se mettre en travers des vagues, comme ça, les vagues vont commencer à frapper la coque de façon intensive. Et là, il y a une chose très importante à savoir, c'est que à cause de la guerre et de la disparition complètement de toutes les matières premières et en particulier de ce qui pouvait alimenter le bateau au fioul. Vu que cette denrée-là a disparu, on a découpé des portes dans la coque du bateau, pas uniquement le La Mauricière, hein, il y a eu plusieurs navires qui ont subi cette opération, pour pouvoir à nouveau l'alimenter au charbon, en fait. Ces portes, ben forcément, elles ont affaibli la structure du bateau. Et surtout, elles ne sont pas d'une étanchéité à toute épreuve. Et le fait que les vagues viennent taper contre la coque, bien évidemment, ça va créer une déformation sur ces portes. Et à partir du moment où la Mauricière se déroute pour se porter au secours du Jumièges, il commence à prendre de l'eau. Et les premières entrées d'eau se passent à ce moment-là. Et donc, comme l'a dit Sébastien, quand la Mauricière arrive sur le lieu présumé du naufrage du Jumièges, on dit présumé parce qu'on n'a jamais retrouvé l'épave, on ne sait pas si ils étaient au bon endroit, si ça se trouve ils n'étaient même pas au bon endroit, enfin on n'a jamais rien retrouvé du Jumièges. La Mauricière reprend sa route vers Marseille après avoir tourné quand même pendant quasiment 3 à 4 heures sur le lieu présumé du naufrage du Jumièges, sauf que la voie d'eau qui s'est créée commence à poser problème. Donc ils essaient de mettre des pompes en marche pour pomper l'eau. Ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Le charbon qui a été mouillé par les entrées d'eau, bah forcément, déjà qu'il est de très très mauvaise qualité, il fonctionne encore moins bien vu que maintenant il est mouillé. Et ils font un calcul et ils se rendent compte qu'ils ont tellement déjà mangé de charbon entre « il faut lutter contre la tempête », puis « on se déroute de notre route pour se porter au secours du Jumièges », qu'en fait, ils ne sont pas sûrs d'avoir suffisamment de charbon pour atteindre Marseille. Donc à ce moment-là, le commandant décide de faire demi-tour et de retourner vers Minorque pour s'abriter dans le port de Port-Mahon, à Minorque, et refaire le plein de charbon et puis attendre que la tempête passe.
Le problème, c'est que cette eau aussi qui s'est embarquée a fait que le bateau s'est mis à giter. Il a énormément gité sur tribord et en fait, il est parti comme ça. Il n'était pas rattrapable en fait. Tout simplement, ils n'ont pas réussi malgré différentes manœuvres. Et ils témoignent justement des manœuvres que le commandant a essayé d'entreprendre pour régler ce problème, mais ça n'était pas possible. Encore une fois, en lien avec ce charbon, en lien avec ces moteurs justement qui étaient peut-être pas aussi puissants que nécessaire pour pouvoir affronter cette tempête qui était, il faut quand même le dire, exceptionnelle puisque mon grand-père décrivait des vagues de 9 à 10 mètres de haut, donc ce qui n'est pas rien. Et on sait qu'en Méditerranée, des tempêtes de ce type-là peuvent être très très dommageables.
Donc le 8 janvier, il devient incontrôlable ce paquebot, hein, c'est ça? Il se dirige vers Minorque pour se mettre à l'abri.
Il tente la manœuvre pour aller se mettre à l'abri vers Minorque, sauf qu'en fait, il n'arrive pas à fournir la puissance nécessaire pour réussir cette opération et il va se mettre dans une position, comme disait Sébastien, en fait, l'inclinaison du bateau devient telle que déjà, il penche vraiment très fort d'un côté. Et là, par contre, et surtout, il devient un petit peu comme un bouchon de liège qui flotte. C'est-à-dire que le plus personne n'est maître du navire. En fait, ça devient un poids mort sur l'eau qui flotte et qui dérive. Et en fait, il va dériver jusqu'à Minorque avec les courants. Mais à partir du moment où on tente ce demi-tour vers Minorque, le bateau n'est plus maîtrisé, tout simplement. Et par contre, ce qui va se passer sur tout le temps de cette dérive, c'est des tas d'opérations. Alors, avec l'équipage, mais aussi, on va tous les militaires vont y participer et certains hommes certains passagers vont également y participer. On va tenter des manœuvres pour justement rééquilibrer le bateau. Donc, il va d'abord y avoir des tentatives pour enlever un maximum d'eau des soutes. Donc ils vont se passer des seaux toute la nuit pour essayer d'évacuer l'eau. Ça ne fonctionne pas. Et après, dans la nuit du 8 au 9, tous les hommes vont se retrouver à transvaser toutes les marchandises, parce qu'en fait, le paquebot ne transportait pas que des passagers. Il y avait aussi des colis primeurs, enfin des tas de choses dans les soutes. Et ils vont transvaser tous ces colis d'un côté à l'autre pour essayer de compenser la gîte du bateau. Ça ne sert à rien, on est bien d'accord. C'est pas ce poids-là qui va redresser le bateau. En revanche, ça va avoir une conséquence terrible sur l'évacuation du bateau, c'est que tous ces hommes, ils s'épuisent. En fait, ça fait 2 jours qu'on leur demande soit de transvaser des seaux d'eau, soit de transvaser des marchandises et des valises et des colis et je ne sais quoi. Et en fait, au moment du naufrage où on a besoin d'énergie pour pouvoir s'en sortir, en fait, tout le monde est à plat. Sans oublier que dans une tempête comme ça, quand on n'a pas le pied marin, le mal de mer, on le sent bien.
Qui vient à leur secours, justement?
Deux bateaux vont se présenter. Le premier d'entre eux sera le Guédon. Assez peu, finalement, vont aller sur le Guédon. La plupart des autres seront récupérés par le Chanzy, qui arrivera juste après. C'est à bord du Chanzy, justement, que mon grand-père va monter une fois qu'il se sera jeté à l'eau. Petite anecdote sur le sujet, puisque il faut savoir que c'est un cousin de mon grand-père. Antoine Kilici, qu'il a récupéré et qu'il a attrapé par les cheveux alors qu'il se tenait à une corde de pilotine pour essayer de remonter.
Il l'avait reconnu ?
Ils se sont reconnus après, mais il ne savait pas que c'était lui sur le moment. Ça a toujours été une blague en famille puisque Mon grand-père nous disait que s'il n'avait pas de cheveux, c'est parce qu'il avait été sauvé, parce qu'on lui avait, on l'avait tiré par les cheveux. Donc ces deux bateaux se sont présentés, le Guédon et le Chanzy, pour venir accompagner justement. Mais ce qui a été aussi quelque chose d'assez terrible, puisqu'il faut savoir qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de chaloupes et de personnes, et vu les conditions avec ces creux, mais finalement beaucoup de personnes ne vont pas forcément périr à bord du bateau, mais vont périr en mer. Parce qu'ils n'auront pas réussi à attraper ces bouts, ces cordes qui leur sont jetées et seront justement vont passer à travers les hélices.
En fait, au moment du naufrage, déjà il y a très peu de canots de sauvetage qui sont mis à la mer, tout simplement parce que le premier, qui est celui sur lequel on fait embarquer majoritairement les femmes et les enfants, en fait, lors de sa mise à l'eau, ça va mal se passer, il y a une poulie qui va se coincer et donc le canot va se renverser. Et non seulement il se renverse, mais en plus il se fait écraser par le retour du bateau qui par le roulis vient se poser sur lui. Donc on est vraiment sur une mise à l'eau catastrophique de cette première chaloupe. Et en fait, les passagers qui attendaient d'embarquer sur les prochains canots, en voyant ça, n'ont pas du tout envie d'embarquer sur les canots. Et donc, il y en a beaucoup qui préfèrent se jeter à la mer ou avec et s'accrocher à un radeau ou une caisse d'orange, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver, plutôt que de monter dans les canots. En fait, au final, il n'y aura que trois canots qui seront mis à l'eau, mais il n'y en aura qu'un qui finira par être sauvé. Et sur ce canot-là, alors qu'au départ, il y avait 25 personnes, il n'y en a que 4 qui vont rester dessus, parce que la mer est tellement déchaînée qu'en fait, les vagues balaient les gens qui soient sur les canots ou sur des radeaux. En fait, ils se font balayer régulièrement par les vagues. Donc en fait, il y a vraiment un très très petit nombre de gens qui arrivent à s'accrocher et à rester sur les canots.
Alors là, ça se passe vers 9h du matin. Donc le commandant Joseph Miasso dit aux personnes maintenant de se débrouiller, non, plus ou moins.
À ce moment-là, tout le monde, les dernières personnes à bord, sautent à l'eau, puisque pour le coup, il n'y a plus de canot. Et donc, mon grand-père témoigne en disant qu'il part vers l'arrière du bateau. Le bateau est à la gîte sur tribord et on ne marche même plus sur les ponts, on marche sur les coursives, le bateau étant complètement couché. Et il va vers l'arrière du bateau qui est encore hors de l'eau à ce moment-là et il va se jeter à l'eau. Et passer quand même quelques heures avant de pouvoir être récupéré par le Chanzy.
En fait, à partir de 9h du matin, le Guédon et le Chanzy sont en vue. Donc les bateaux commencent à se positionner par rapport au vent, par rapport à la dérive et tout ça, pour essayer de se rapprocher au maximum du La Mauricière et faire en sorte que les canots qui seraient mis à l'eau aillent dans le bon sens pour rejoindre les bateaux suivants. Mais en fait, la mer est tellement démontée que ça va pas fonctionner. Donc il y a tout ce temps où on a dit aux passagers, montez sur les ponts supérieurs, vous allez bientôt embarquer, mais où en fait, les manœuvres des bateaux durent assez longtemps. Donc effectivement, par contre, le premier canot, c'est vers 11h qu'on le met à l'eau. Mais les passagers ont été appelés à monter pour l'évacuation dès 9h du matin.
Et à 12h40, le bateau coule.
Donc il gîte, mais il s'enfonce également par l'arrière. Et en fait, on le voit sur les témoignages des rescapés que j'ai pu lire. La plupart, voyant ça, en fait, vont vers l'arrière du bateau parce que l'arrière du bateau est à fleur d'eau. Donc en fait, il n'y a pas à sauter une grande hauteur pour se mettre à l'eau. Il suffit de se laisser glisser et en fait, on se retrouve à l'eau si on va vers l'arrière du bateau. D'un seul coup, vers 12h30, probablement parce que d'un seul coup, l'eau finit par trouver son chemin de façon massive dans le bateau. Il se met à la verticale et il s'enfonce par l'arrière. Comme le Titanic, mais pas du tout dans les mêmes conditions et pas du tout avec le même pourcentage de gens sauvés. Oui.
Je me suis accroché à un radeau. On était 9 accrochés aux guirlandes des radeaux. Bon, on attendait. On lâchait les radeaux parce qu'on avait des vagues de 10 mètres de haut. Dans les tourbillons des vagues, on était obligé de se lâcher. et de reprendre le radeau, parce que sinon, on était... Le Chanzy est arrivé vers nous. Au lieu de se diriger sur les simples naufragés, il se dirigeait sur les... où il y avait le plus à pouvoir récupérer. Et je me suis retrouvé agrippé à un cordage, mais le cordage me glissait des mains, le bout me glissait des mains, je n'arrivais pas à le tenir, j'étais frigorifié. Alors je me suis lâché, j'ai lâché, puis j'ai glissé le long du bord, le long de la coque, mais j'avais peur d'arriver à passer sous les hélices, comme j'ai vu pas mal. C'était les hélices qui ne pouvaient pas stopper, le Chanzy ne pouvait pas stopper. Ou il battait en arrière pour étaler à la lame, ou il partait en avant pour, on aurait dit, des gens qui passaient sous les hélices et qui étaient à la moulinette, hein, disons. Et j'ai réussi à m'accrocher à une échelle de pilote. Là, je me suis cramponné avec les deux bras. Et comme j'avais une chevelure assez importante à l'époque, j'ai été agrippé par les cheveux. Et celui qui m'a agrippé par les cheveux n'était autre qu'un cousin à moi qui était matelot sur le Chanzy, qui s'appelait Antoine Cuilichi.
Donc c'est une catastrophe énorme. Si même on compare par rapport au Titanic, la proportion de rescapés et de morts, la Mauricière, c'est vraiment un drame absolu.
Alors en fait, si on veut faire une comparaison avec le Titanic, donc le Titanic, lui, quand il disparaît dans une mer d'huile. C'est ultra calme. Les mises à l'eau des canaux se font extrêmement bien. Et il faut savoir que sur le Titanic, 75% des femmes et des enfants sont sauvés. Alors que nous, on est péniblement à 14%, si je me souviens bien, de femmes et d'enfants sauvés. De la même façon, sur le Titanic, ils sont à plus de 30% au global de gens rescapés. Nous, on est péniblement à 1 sur 4. Enfin, on est même à moins d'1 sur 4. Donc moins de 25%. Donc le Titanic, il y avait beaucoup plus de monde à bord parce que le bateau était plus gros, mais proportionnellement, la Mauricière fait plus de victimes que le Titanic.
Alors comment se déroule l'arrivée des rescapés à Marseille? Est-ce que c'est très médiatisé cet événement? Est-ce qu'on en parle? Vous, Sébastien Giraud, votre grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il reste, je crois, pendant quelques mois... En arrêt maladie, entre guillemets.
Je ne pense pas qu'on parlait d'arrêt maladie à l'époque. On était en pleine guerre et ils étaient réquisitionnés. Mais effectivement, il ne travaille pas pendant 2 mois. Mais en fait, pour lui, c'était important de vite repartir et de travailler. Tout simplement, il fallait travailler. Et donc, au bout de 2 mois, effectivement, il reprend le travail et embarque à bord du Ville d'Oran, qui aurait été son bateau suivant.
Mais lui, il continue à travailler avec la même compagnie, hein, la Compagnie Générale Transatlantique.
Toujours.
Moi, pour avoir étudié les dossiers de l'ensemble de l'équipage, la partie de l'équipage rescapé, on leur a tous donné 2 mois de congé, qui a été qualifié de maladie à l'époque. Mais au 15 mars, tout le monde, enfin tous les rescapés qui faisaient partie de l'équipage, est à nouveau sur un bateau. La compensation qu'ils ont eue pour avoir vécu ce naufrage a été 2 mois d'arrêt.
Est-ce qu'il y a eu un hommage national?
Alors, il y a eu une journée de deuil national qui a été déclarée. Et à Marseille, il y a eu une très très grande cérémonie à la cathédrale de la Major.
Quand ?
Dans la semaine suivante, je crois.
Alors votre association, donc Naufrage du La Mauricière, vous souhaitez qu'il y ait un monument qui soit érigé à Marseille. Alors pourquoi et où ?
Alors pourquoi ? Ben, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nécessité pour les familles. Elles ont vraiment besoin d'avoir un lieu où elles peuvent se recueillir et voir le nom de leurs disparus pour enfin faire leur deuil. Je veux dire, on est quand même dans une situation où plus de 80 ans après un naufrage, les familles n'ont toujours pas fait leur deuil. Enfin voilà, c'est mérité. Ensuite, le fait que les victimes aient été reconnues mortes pour la France, il faut le savoir, aujourd'hui c'est une disposition légale. En fait, toute personne qui a reçu la mention morte pour la France doit avoir son nom inscrit sur un monument aux morts quelque part en France. Et ça n'a jamais été fait pour les victimes du La Mauricière. Donc c'est aussi quelque chose qu'on veut faire. Pour nous, c'est évident que c'est à Marseille, parce que déjà, tout l'équipage dépendait de Marseille et que ben, ça représente quand même une très grosse proportion des gens qui étaient embarqués. Hein. 132 sur 395, c'est quand même pas mal. Et en plus, parmi les passagers, il y avait aussi des gens de Marseille. Et puis, c'était la destination que devait atteindre le bateau. Donc, symboliquement, on les amène à destination. Je pense que ça a du sens. Ou dans Marseille, ça va forcément être une discussion avec la mairie, parce que c'est eux qui vont nous allouer un endroit. Donc là, les discussions, on est au tout début. Donc pour l'instant, on ne sait pas où ce sera. Mais voilà, c'est Marseille s'impose en tout cas.
2008, on découvre l'épave. C'est quand même une date importante. Par moins 156 mètres de profondeur, hein, du côté donc de l'île de Minorque. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous par rapport à votre histoire familiale, Sébastien Giraud?
Alors, c'est important de pouvoir se figurer, en fait, où se trouve l'épave, pour pouvoir avoir un lieu de recueillement en mer, et effectivement, une autre des démarches, au-delà d'une commémoration et justement d'une plaque qui pourrait venir justement rappeler cette mémoire-là à Marseille, c'est pouvoir peut-être imaginer demain une nouvelle commémoration pour aller sur les lieux. Donc ça peut être quelque chose qui permettrait de participer de ce travail de deuil aussi. Je voudrais juste témoigner en ce sens, en disant qu'effectivement, il y a eu de nombreuses personnes qui sont mortes au cours de ce naufrage. Mais parmi les rescapés, mon grand-père, il faut savoir que le dernier mot qu'il ait prononcé dans sa vie, juste avant de mourir en juin 2009, a été le mot « la Mauricière ». Il a demandé à ma maman, va appeler, il était à l'hôpital, il souffrait d'un cancer, va appeler le chirurgien, je voudrais lui parler du « la Mauricière ». Vous voyez que cet événement a marqué même les rescapés, même les familles, et encore aujourd'hui, si vous avez des petits-enfants, Isabelle, moi-même, qui voulons œuvrer autour de ce sujet-là, c'est que ce travail de mémoire est indispensable, et que nous avons peut-être pas encore complètement fait notre deuil de ce naufrage-là.
Moi, je me suis rendue à Minorque en 2019, parce que je voulais être au plus près de l'épave. C'était important pour moi. J'ai mis mes pieds dans l'eau au plus près d'eux. Symboliquement, pour moi, c'était important. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ce serait bien qu'avec l'association, on puisse aussi organiser ça, c'est-à-dire une sortie en mer, enfin, je sais, ou une croisière en mer, je ne sais pas comment on qualifie ça exactement, mais permettre aux familles d'aller sur le lieu du naufrage, vu que maintenant on sait très précisément où il est pas, ce qui n'était pas le cas quand la maman de Sébastien et son grand-père y sont allés, où là on n'avait pas encore retrouvé l'épave, c'était en 92, donc ils s'étaient rendus au lieu supposé. Aujourd'hui on sait exactement où c'est. Je pense que ce serait aussi quelque chose de très fort pour les familles de pouvoir se rendre sur les lieux et jeter des fleurs à la mer.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Voix marseillaise, une émission de David Hakoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir.